La parole est maintenant à Pierre Brunel, professeur émérite à la Sorbonne et auteur de nombreux travaux sur toute la littérature française et en particulier sur Baudelaire. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « Charles Baudelaire, les fleurs du mal entre fleurir et défleurir ». Ce matin, il nous parlera de Baudelaire et la musique, moderne ou anti-moderne.
Mesdames, messieurs, je voudrais... Est-ce qu'on entend ? Voilà. Mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Antoine Compagnon pour l'honneur et l'amitié qu'il me fait en m'invitant à parler devant vous. Je voudrais aussi le remercier de faire confiance à ma santé mentale. Et je vais déjà introduire le doute à ce sujet. Le titre annoncé, Baudelaire et la musique, moderne ou anti-moderne, s'est voulu proche du titre donné au cours d'Antoine Compagnon au Collège de France, à la différence du « et du « ou » et de son œuvre. Je connais fort bien les cinq paradoxes de la modernité qui s'ouvrent et qui s'achèvent sur Baudelaire et le livre sur les antimodernes. J'ai sous les yeux un article du journal Le Nouvel Observateur, 20 décembre 2007, 2 janvier 2008, un article de Jacques Drillon, l'artiste, point d'interrogation, un antimoderne, point d'exclamation. C'est à propos des antimodernes d'Antoine Compagnon. Et permettez-moi de dire que Jacques Drillon considère cet ouvrage, à juste titre, comme un ouvrage définitif et étincelant. Où le doute s'introduit en moi, c'est que quand j'ai communiqué le titre de mon intervention au collège, mon ordinateur ou moi avons commis un lapsus. Et immédiatement, un sentiment d'inquiétude est né. Le texte qui était parvenu était « Baudelaire et la musique, moderne ou antémoderne ». J'ai tout de suite, bien sûr, corrigé quand Mathieu Vernet m'a signalé la bourde. Mais voilà qu'au fur et à mesure de mon travail, je me suis demandé s'il n'y avait pas place quelque part pour ce néologisme antémoderne. Et dans l'état d'esprit où je suis ce matin, je suis obligé de l'utiliser de temps en temps. Vous savez que récemment a paru la traduction française du livre de Roberto Calasso, La folie Baudelaire, traduit par Jean-Paul Manganaro. Et selon l'essayiste italien, je cite, « Il y a une vague Baudelaire qui traverse tout, elle a son origine avant lui et elle se propage au-delà de n'importe quel obstacle. Ce n'est qu'une phrase d'un critique. » Mais à lire cette phrase, je ne peux pas m'empêcher de me demander si Baudelaire est porté par la vague de la modernité ou s'il est porté par une vague qui vient de plus loin dans le passé, donc, si vous voulez, antémoderne. Ce flux qui porte Baudelaire est contrarié par un reflux, l'antimodernité, et l'antimoderne est illustré chez lui par ce qui est appelé par Antoine Compagnon « style de véhémence » ou « vitupération » dans son livre sur les antimodernes, « violence » dans le livre consacré à violence et poésie par un celui qui va me succéder, Jérôme Tello. Si bien que on est pris entre ces notions diverses avec lesquelles je vais me battre ou jouer. Nulle image, vous en conviendrez, n'est plus appropriée que celle de la vague quand on aborde la relation entre Baudelaire et la musique. Le poème des Fleurs du Mal, la musique, commence sur cette image, qui est aussi un cri de surprise avec un point d'exclamation. La musique parfois me prend comme une mer. La vague, il est vrai, retombe au cours du poème. Et le vaisseau qui souffre bénéficie d'accalmie grâce à la musique, bien plus à la faveur d'un point et d'un tiret, s'établit le calme plat, d'autrefois calme plat, grand miroir de mon désespoir. Curieusement, me semble-t-il, la fin du poème a moins suscité l'attention des commentateurs que le début. Je pense par exemple au commentaire de John Jackson dans son édition des Fleurs du Mal. Et John Jackson écrit même, il est révélateur que dans ce poème, où il semble méditer sur sa vocation poétique, Baudelaire valorise les passions, voire les convulsions, contre l'inertie du calme plat. À l'inverse, Joseph Conrad a choisi pour épigraphe à l'un de ses romans, The Shadowline, « Calme plat, grand miroir de mon désespoir ». J'ai choisi trois points, non pas par un artifice rhétorique ou par une manie d'ancien professeur, mais pour la simplicité et peut-être pour la progression. Le premier terme que je retiens, inévitable et en même temps embarrassant à beaucoup d'égards, c'est la chanson. On pourrait s'en passer si on considère que la chanson n'est constituée que de mots. On ne peut plus s'en passer si on considère que la chanson appelle en principe la musique ou même naît de la musique. Je vais m'en tenir ici à quelques remarques que j'extrais d'un ensemble, hélas, beaucoup plus long que j'avais préparé. Ma première remarque, c'est que Baudelaire a une bête noire qui est Béranger, ou de Béranger, un chansonnier qui a un pied dans le XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1780, donc il serait de l'antémoderne pour le coup, un chansonnier qu'il poursuit de sa hargne jusque dans ce que André Guyot a appelé à juste titre « Pauvre Belgique ». J'ai eu l'impression en relisant ce texte que ce n'était pas seulement des disciples de Béranger qui étaient en Belgique, mais les Belges eux-mêmes qui étaient des disciples de Béranger. Béranger, auteur de paroles de musique, bien sûr, mais aussi auteur de musique, ou ayant écrit des vers destinés à être mis en musique, en particulier ce qu'il a écrit pour une musique qui est celle de « Il était un roi d'Yvetot » et que Baudelaire a repris pour un poème satirique où il s'en prend à Casimir de Lavigne. Une remarque que je voudrais faire et qui corrige un petit peu cela, ou qui du moins invite à prendre quelques précautions, c'est que curieusement, en épigraphe à son conte « La chute de la maison Usher », Edgar Poe a placé deux vers de Béranger, sic, mais Baudelaire aussi, quelquefois, par Béranger du « de » aristocratique. Ces deux vers, ce sont « Son cœur est un luth suspendu, sitôt qu'on le touche, il résonne ». Vers extrait d'une chanson de Béranger qui s'intitule « Le refus » et qui était dédié au général Sébastiani. Si on lit les textes où il est question, sous la plume d'Edgar Poe, de la chanson, on s'aperçoit que, pour lui, elle est inséparable de la musique, et c'est la raison pour laquelle elle a sa place dans mon propos d'aujourd'hui. L'essence de la chanson, pour Poe, son génie, serait dans sa subordination à la musique. Et pour lui, Béranger, au sens chansonnier au sens complet du terme, pourrait être exemplaire de cette essence, du moins dans une première approximation que Poe vérifiera en se tenant de plus en plus à distance et que Baudelaire rejettera. Je ne serais pas trop étonné que Baudelaire se soit forcé la main en maintenant l'épigraphe empruntée à Béranger quand il a traduit la chute de la maison Usher. Mais très vite, c'est un autre chansonnier que je veux passer, moins antémoderne celui-ci que véritablement moderne, c'est-à-dire Pierre Dupont. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir acquis récemment les 4 tomes des poètes français, ce recueil des chefs-d'œuvre de la poésie française depuis les origines jusqu'à nos jours, c'est le sous-titre. Et précisément dans le tome 4, publié en 1863 à la librairie Hachette et consacré aux contemporains, il y a une notice sur Pierre Dupont due à Baudelaire et un choix de chansons de Pierre Dupont. Il y a aussi une notice consacrée à Béranger et un choix de chansons de Béranger, mais l'auteur de la notice est l'auteur du choix, et cette fois-ci, non pas Baudelaire, mais Hippolyte Babou, c'est-à-dire, c'est bien connu, celui qui aurait inventé le titre « Les fleurs du mal ». J'imagine que Baudelaire, si on lui avait proposé d'écrire la notice sur Béranger, aurait refusé obstinément. Cette notice avait d'abord paru, celle de Baudelaire sur Dupont, le 15 août 1861 dans la revue Fantaisiste. Elle sera reprise après sa mort dans l'art romantique parmi les réflexions sur quelques-uns de mes contemporains. Baudelaire ne fait pas de Pierre Dupont un poète du passé, il n'en fait pas non plus le poète de la Révolution de 48, même dans le magnifique chant des ouvriers, l'épithète est de Baudelaire. Pour lui, Pierre Dupont a l'âme trop tendre pour cela, et la chanson, dans le cas de Pierre Dupont, est pour Baudelaire inséparable de la musique qui la soutient. Il rappelle comment, au cours de leur longue flânerie, en 1846 ou 1847, Pierre Dupont lui chantait ce chant des ouvriers. Tout ce qui appartient à la classe des sentiments doux et tendres, écrit Baudelaire à ce sujet, est exprimé par lui avec un accent rajeuni, renouvelé par la sincérité du sentiment. C'est-à-dire que la chanson, ce genre ancien, antémoderne, si vous me permettez le terme, se trouve modernisée, du moins un peu modernisée, comme il l'est en poésie, dans l'unique poème des Fleurs du Mal qui porte chanson dans son titre, la chanson d'après-midi, une chanson sans refrain, mais une chanson en 10 quatrains d'heptasyllabes. En 1851, déjà, Baudelaire avait préfacé le recueil des chants et chansons de Pierre Dupont, publié chez Houssiot, qui devait compter lui aussi pas moins de 4 volumes. Il vantait chez cet homme libre, originaire de Lyon, la préférence accordée à la nature sur la poussière des ateliers, même s'il en vint au moment de la Révolution de 1848, à des chants politiques et socialistes, aux accents d'une sorte de marseillaise du travail, l'expression est de Baudelaire, où l'amour de l'humanité l'emporte sur l'indignation et où on voit et on entend qu'il pardonnera vite au moindre signe de repentir au premier rayon du soleil. Je terminerai par une dernière notation concernant Pierre Dupont. Elle concerne la musique de Pierre Dupont, musique qui, Selon Baudelaire, dans le long post-scriptum qu'il ajoute à son texte de 1851, fait de ses chants, je cite, « des drames lyriques ». Cela, vous le comprenez fort bien, me permet une transition qui ne cherche même pas à être habile. Mais avant de parler de drames lyriques, c'est d'opéra que je tenterai de parler, et c'est le deuxième terme que je retiendrai, avec, j'essaierai de me justifier, un seul exemple. Il y eut toujours chez Baudelaire un désir d'opéra et le regret de n'avoir pu voir aboutir un tel projet qui eût été pour lui une consécration. Significative à cet égard me paraît la lettre qu'il adressait à sa mère de Paris le samedi 26 mars 1853. Il annonce une lettre courte, or cette lettre est longue. C'est un long gémissement, comme il y en a tant dans sa correspondance, sur la misère de sa vie matérielle, sur sa solitude, sur son échec en librairie. Mais il y est question aussi d'un projet d'opéra. L'opéra, entendez le directeur de l'opéra, qui est alors Nestor Roqueplan, lui a demandé, dit-il, je cite, « un livret d'un genre nouveau pour être mis en musique par un nouveau musicien en réputation. » Nous allons, j'allais dire presque dangereusement, vers le moderne. « Je crois même, ajoute Baudelaire, qu'on l'aurait peut-être fait faire par Meyerbeer. » Et il tient tellement à ce nom qu'il le souligne. Le jugement implicite et même à demi implicite qu'il porte sur Meyerbeer est moins, me semble-t-il, un jugement de qualité que, si l'on peut dire, de notoriété ou même de rentabilité. Et d'ailleurs, Baudelaire ajoute, c'était une bonne fortune, peut-être une rente perpétuelle. Il y a des gens de 50 ans et d'une réputation faite qui n'ont jamais obtenu pareille faveur. Comme pour tous les projets de Baudelaire concernant l'opéra, celui-ci a échoué, l'occasion a été manquée, il est obligé de l'avouer et il écrit « La misère et le désordre créent une telle atonie, une telle mélancolie que j'ai manqué à tous les rendez-vous. Par bonheur, je n'ai pas reçu un sol. » Et ce n'est pas la lettre de musique, je n'ai pas besoin de le dire. Il a laissé interrompu le livre que l'éditeur bien intentionné, le riche et aimable Victor Lecoux, se proposait de publier. Il n'a pas écrit le drame que l'associé du directeur du théâtre de boulevard, dont on ignore le nom, lui demandait. Il n'a pas donné suite à ce projet d'opéra, avec ou sans Meyerbeer, pas plus qu'il n'avait donné suite à un précédent projet de scénario d'opéra qu'il avait l'année précédente proposé lui-même à Nestor Roqueplan et dans lequel se seraient rencontrés Don Juan et Casanova. Quelle idée Baudelaire avait-il du talent de Meyerbeer? Où le situait-il entre modernité et anti-modernité? Nous manquons d'indications à cet égard, mais nous avons quelques indices de l'intérêt que Baudelaire a porté à ce compositeur. Dans une autre lettre, adressée le 28 juillet 1854 à Pierangelo Fiorentino, qui tenait la chronique musicale du Constitutionnel et qui était aussi le traducteur de la Divine Comédie et d'une traduction que Baudelaire utilisait, il demande avec insistance une loge gratuite pour l'Étoile, c'est-à-dire l'Étoile du Nord, opéra de demi-caractère, composé par Meyerbeer sur un livret de Scribe et créé à l'Opéra Comique le 16 février précédent. Il semble qu'il ait voulu y emmener Marie d'Aubrin, et c'est peut-être elle qui lui avait fait part de son envie d'assister à ce spectacle. À cette date de 1837, Meyerbeer n'était plus le quasi-débutant venu d'Allemagne à l'Opéra de Paris qui avait livré une sorte de bataille d'Hernani musicale, la bataille décisive de Robert le Diable le 21 novembre 1831, opéra sur un livret de Scribe et de ce Casimir de la Vigne que Baudelaire n'apprécie guère. Le succès des Huguenots, le 26 février 1836, a été éclatant, malgré des velléités d'opposition et même des haines systématiques dont a témoigné Berlioz. Il se trouve que je me suis intéressé récemment à cet opéra oublié, il faut bien le dire, qui est actuellement représenté à l'Opéra du Rhin et pour lequel on m'avait demandé un texte. Texte que j'ai fait porter sur cette notion de bataille. Mais contrairement à la bataille d'Hernani ou à la bataille de Robert le Diable, la bataille des Huguenots s'est engagée surtout en Allemagne et en particulier à Leipzig. Robert Schumann a publié un article très vif dans lequel il proteste d'entendre le choral de Luther, son plus précieux chant sacré, dit-il, crier sur les planches. Et il avait été révolté de voir le drame le plus sanglant de l'histoire de sa religion ravalé à une farce de foire. Le cinquième acte lui apparaissait comme une boucherie et musicalement, il considérait l'œuvre comme pauvre et il plaçait bien au-dessus l'oratorio de son ami Mendelssohn, Paulus, exécuté aussi à Leipzig cette même année 1837. En 1843, Meyerbeer devient directeur général de la musique de la cour de Prusse. Berlioz assiste à une représentation des Huguenots, désapprouve l'interprétation et revient sensiblement sur le premier jugement favorable qu'il avait porté sur l'œuvre. Reste quelqu'un que nous attendons tous, et là aussi je travaille à ma transition, Richard Wagner. Richard Wagner qui fut d'abord ou qui feignit d'abord d'être un admirateur de Meyerbeer, mais du Meyerbeer allemand. Puis il évolua lui aussi vers une impression plus critique, le considérant comme un curieux d'art plus que comme un artiste authentique. Au début, il avait approuvé, comme Berlioz, la scène de la bénédiction des poignards dans les Huguenots, mais c'était en 1842 à Berlin quand Meyerbeer lui rendait service en s'employant à faire jouer le vaisseau fantôme. Wagner avait écrit sur Meyerbeer un grand article, mais il ne le publia pas. Et par la suite, après 1850 surtout, il a tendu à considérer Meyerbeer comme un amuseur, coupable, disait-il, d'employer à la recherche d'un succès facile et par des effets trop sûrs, banals, une science et un talent incontestable. Un compositeur habile, certes, un compositeur moderne, ce serait beaucoup dire. Il employait trop de formules usées pour qu'on n'ait pas envie de le ranger aussi dans la catégorie des anti-modernes. J'en viens donc à ce qui est le plus attendu, Richard Wagner. La modernité, apparemment, et peut-être pas la modernité pure, c'est ce que je vais essayer d'exposer. Richard Wagner, contrairement à Meyerbeer, est apparu dès l'époque de Baudelaire comme le compositeur moderne, ou plus exactement comme le grand novateur permettant de passer de l'opéra, avec ce qu'il y a de traditionnel, de conventionnel dans ce terme, au drame musical dont il a fait la théorie, dans différents ouvrages, L'art et la révolution, L'œuvre d'art de l'avenir, et un livre que Baudelaire lui-même a dit avoir lu en traduction anglaise, Opéra et drame. Il n'était pas venu spontanément, immédiatement, au drame musical. Rienzi était encore un opéra traditionnel. Le vaisseau fantôme, timidement, a marqué le premier pas, sans constituer encore véritablement la modernité en matière de drame musical et encore moins l'absolument moderne de Rimbaud. Depuis plus de 20 ans, Monsieur Richard Wagner soutient en Allemagne une lutte ouverte contre l'ancien opéra. J'emprunte cette citation à un article que j'ai eu la chance de trouver également récemment en acquérant un recueil de 3 fascicules de la Revue des Deux Mondes. Et c'est dans la Revue des Deux Mondes du 15 avril 1869, donc 2 ans ou presque après la mort de Baudelaire, qu'Édouard Churet, le futur auteur du drame musical, écrivait cette phrase dans un long article sur le drame musical de Richard Wagner, article que je vais assez longuement solliciter. « Le combat dure encore », constate Édouard Churet en 1869, et n'a cessé de passionner tout le public des arts et des lettres. Et cela, Churet y insiste, en raison de ce qu'il appelle une idée, il souligne le terme, celle qui, dit-il, suscita l'enthousiasme orageux quand Lohengrin apparut à Paris, soit 19 ans auparavant. Les cris de guerre qui partirent aussitôt de tous les camps de la critique semèrent la panique et la consternation. Mais, continue Churet, c'est le privilège des innovations fécondes de provoquer l'injure et de se heurter à des haines implacables. Monsieur Richard Wagner, disons le mot, est un révolutionnaire radical en fait d'opéra. Cette idée de révolution est celle qui préside à son œuvre et qu'il a donc engagée sur la voie du moderne. Ou à la lecture de Churet, mais aussi à la lecture de Baudelaire, une nuance doit être apportée, c'est que cette modernité radicale que Wagner aurait introduite avec sa conception du drame musical n'est pas totalement absente d'œuvres antérieures, de Mozart, qui est respecté par Churet et admiré par Baudelaire, ou de Gluck. Le drame musical, selon Churet, aurait même été inauguré par Gluck et, je le cite, repris et élargi par M. Richard Wagner, devenu, grâce à lui, une des formes les plus vivantes et les plus grandioses de l'art. On peut reprocher à Béranger d'être né en 1780, mais ici, on n'irait pas reprocher à Gluck d'être un compositeur du XVIIIe siècle. Wagner, pourtant, a rompu avec la conception de l'opéra classique. Il est allé bien au-delà des innovations de Gluck. Il a voulu que dans la même personne, dans le même auteur, se trouvent réunis, c'est bien connu, un vrai poète et un vrai musicien, mais après tout, un chansonnier aussi peut très bien écrire le texte et la musique de sa chanson. À la date de 1859, et plus encore à la date de 1869, Churet laisse l'avenir ouvert, et en particulier l'avenir de Wagner, et il propose, en conclusion de l'article auquel je me réfère, cette conclusion qui est aussi une ouverture, je cite, « Si c'est chose difficile, est-ce chose impossible ? Rien ne le prouve. Il est donc à prévoir que dans l'avenir, le drame musical s'affirmera plus d'une fois encore en face de l'opéra. Ceux qui ne demandent à la scène lyrique que le plus éblouissant des spectacles, ornés de magnifiques morceaux de musique instrumentale et vocale, suivront la voie de l'opéra traditionnel. Ceux qui n'y verront pas seulement une fête musicale, qui chercheront là, comme dans le drame déclamé, une occasion de représenter devant la foule l'homme dans toute son énergie, l'humanité dans toute sa grandeur, ceux-là s'attacheront au drame musical. C'est la gloire de Gluck d'avoir frayé cette voie. C'est l'honneur de M. Richard Wagner d'y avoir marché plus avant. » Contrairement à Meyerbeer, donc, Richard Wagner est apparu à Baudelaire aussi, à Baudelaire déjà, comme le musicien de l'avenir, et plus tôt qu'on ne le pense. Dès 1849, sans savoir à cette date que Wagner, chassé de la Saxe par la répression de la Révolution, avait gagné Zurich et de la Paris, ou plus exactement Rueil, près de la Ferté-sous-Jouarre, où il était hébergé par le secrétaire de Liszt. Dans une lettre adressée le 13 juillet 1849 à un nommé Chaumont ou Schumann, j'ai essayé ailleurs de reconnaître Robert Schumann dans cet individu, je me suis peut-être trompé, Baudelaire écrivait « En lui donnant satisfaction, vous servirez la cause de celui que l'avenir consacrera le plus illustre parmi les maîtres. » C'est par Liszt, par ses analyses de Tannhäuser puis de Lohengrin que Baudelaire a d'abord connu un peu l'œuvre de Wagner. Théophile Gautier et Champfleury, par leurs articles, lui ont servi d'intermédiaire. Mais ce n'est, c'est bien connu, qu'en 1860, au concert donné le 25 janvier, le 1er et le 8 février au Théâtre italien de Paris, qu'il a pu entendre des extraits du Vaisseau fantôme de Tannhäuser et de Lohengrin, le compositeur lui-même dirigeant l'orchestre et les chœurs. D'où cette longue lettre à Wagner, où il exprime son admiration le 17 février 1860, lettre où il oppose la musique de Wagner à celle de ceux qu'il appelle des charlatans à grande prétention, d'où aussi le grand article publié le 1er avril 1861 dans la Revue européenne, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, où il prend la défense du moderne Richard Wagner contre les anti-modernes de tout poil, qu'il s'agisse des amateurs du ballet du Jockey Club au féroce critique Paul Scudo. Fait significatif, après l'échec de la troisième représentation de Tannhäuser le 24 mars 1861, l'Opéra de Paris remettait à l'affiche le Robert le Diable de Meyerbeer, vieille lune du pseudo-romantisme de 1830 ou de 1831. Je vous ferai observer, et là je suis au cœur de votre sujet, que dans ce long texte sur Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, le mot moderne est inscrit une seule fois. C'est vers la fin du texte, dans la quatrième et dernière partie. Je cite. Ce qui me paraît avant tout marquer d'une manière inoubliable la manière de se mettre, écrit Baudelaire, c'est l'intensité nerveuse, la violence dans la passion et dans la volonté. Cette musique-là exprime avec la voix la plus suave ou la plus stridente tout ce qu'il y a de plus caché dans le cœur de l'homme. Une ambition idéale préside, il est vrai, à toutes ses compositions. Mais si, par le choix de ses sujets et sa méthode dramatique, Wagner se rapproche de l'Antiquité, par l'énergie passionnée de son expression, il est actuellement le représentant le plus vrai de la nature moderne. Ce que je viens de citer tire le Wagner de Baudelaire vers la modernité, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de le constater, nous ramène en arrière et nous ramène vers ce que j'ai osé appeler l'anté-moderne. Robert Kopp, dans son édition des textes de Baudelaire consacrée à Wagner, s'est interrogé sur la nécessité de créer ce qu'il appelle une mythologie moderne. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait besoin de cela. C'est avec la mythologie antique, c'est avec la mythologie classique que fonctionne, à ce moment-là du moins, le drame wagnérien. Et Baudelaire en est parfaitement conscient. Baudelaire, tout en considérant Wagner comme le musicien de la modernité, sait très bien que son drame musical est fondé aussi sur des éléments qui ressortissent à l'anté-modernité. Permettez-moi ici de citer un peu longuement l'article sur Richard Wagner et Tannhäuser à Paris. C'est une page bien connue, mais c'est une page qui exprime bien mieux que je ne viens de le faire l'idée que j'essaie de dégager. Depuis le jour où il s'est dégagé des vieilles routines du livret et où il a courageusement renié son Rienzi, il a marché sans dévier d'une ligne vers cet impérieux idéal. C'est donc sans étonnement que j'ai trouvé dans ceux de ses ouvrages qui sont traduits particulièrement Tannhäuser, Lohengrin et le vaisseau fantôme, une méthode de construction excellente, un esprit d'ordre et de division qui rappelle l'architecture des tragédies antiques. Le modèle, donc, les tragédies antiques. Mais les phénomènes et les idées qui se produisent périodiquement à travers les âges empruntent toujours à chaque résurrection le caractère complémentaire de la variante et de la circonstance. La radieuse Vénus antique, l'Aphrodite née de la blanche écume, n'a pas impunément traversé les horrifiques ténèbres du Moyen-Âge. Elle n'habite plus l'Olympe ni les rives d'un archipel parfumé. Elle est retirée au fond d'une caverne magnifique, il est vrai, mais illuminée par des feux qui ne sont pas ceux du bienveillant Phébus. En descendant sous terre, Vénus est rapprochée de l'enfer et elle va sans doute à de certaines solennités abominables rendre régulièrement hommage à l'archidémon, prince de la chair et seigneur du péché. Allusion bien sûr à Tannhäuser, au Vénusberg, à la caverne de Vénus, à une Vénus modernisée, bien sûr, mais à une Vénus qui vient bel et bien de l'Antiquité, et à une Vénus, vous avez pu l'observer dans le passage que je viens de lire, qui naît de la vague, la Vénus anadyomène, de cette vague qui est aussi la vague de la musique, cette vague venant de loin et cette vague roulant vers l'avenir qui est décrite dans le poème à la musique. Je ne peux pas terminer sans faire allusion à un dernier compositeur proche de Wagner et qui permettra de confirmer l'idée que je viens d'essayer de mettre en place. Il s'agit bien sûr de Franz Liszt. J'ai déjà cité son nom tout à l'heure comme introducteur de Baudelaire à Wagner. Baudelaire connaissait aussi en partie sa musique, en particulier certaines des rhapsodies hongroises. Il y fait allusion dans une lettre à la femme de Charles Hugo, qu'il avait reçue à Bruxelles. Et à Liszt se trouve dédié, vous le savez, un petit poème en prose, le Tirse, publié dans la Revue nationale et étrangère le 10 décembre 1863, avant d'être repris dans le recueil posthume Le Spleen de Paris en 1869. Ce texte me paraît illustrer parfaitement cette dualité que j'ai essayé de montrer, moins finalement, pardon Antoine, le moderne et l'antimoderne, que, merci à mon ordinateur, le moderne et l'antémoderne. Le Tirse, c'est un emblème antique, et c'est cet emblème antique qui est utilisé pour rendre hommage à Liszt, non que Liszt soit un compositeur qui renvoie au passé, non que Liszt soit un antimoderne, mais au contraire, Liszt, comme Wagner, est de ceux qui vont de l'avant sans pour autant renier certaines images, certains emblèmes du passé. Le Tirse, écrit Baudelaire dans ce texte, est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchon de la beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphe exaspérée par l'invincible Bacchus ne secoua son Tirse sur les têtes de ses compagnes affolées avec autant d'énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères. Le bâton, c'est votre volonté, c'est l'élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes, ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et invisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer. Merci.